Pays Bidikersi, Mater. Outre qu'elle organise des chantiers de formation, de reconstruction de murets ou de puits ou de lavoirs en pierre sèche, l'Association pour la promotion de l'identité des Causses du Quercy, la PIC, a organisé, depuis sa création, des ateliers d'écriture, de contes autour de légendes, de construction des puits. Cette émission présente la lecture de 3 de ces contes. Marco Bénard nous lit d'abord la présentation de ces éditions.
Depuis l'an 2000, des hommes et des femmes, soucieux de préserver et de transmettre un patrimoine populaire trop méconnu, se sont rassemblés dans l'Association pour la promotion pour l'identité des Causses du Quercy, afin d'agir sur le terrain local. Considérant que l'eau fut de tout temps la richesse naturelle la plus précieuse de nos Causses, une richesse très convoitée par nos aïeux, mais aussi partagée et gérée par tous comme un bien commun, ils ont choisi de travailler en priorité autour de la sauvegarde du petit patrimoine rural lié à l'eau. Cet ensemble de bâtis, de puits, de mares et fontaines était alors ruiné, en grand péril de disparaître et d'être oublié de la mémoire collective. Ainsi, la PIC, s'appuyant sur ses recherches historiques des us et coutumes du monde rural après avoir retrouvé des savoir-faire ancestraux de construction, a entrepris une opération programmée de restauration du petit patrimoine rural destiné dans un premier temps à la sauvegarde de puits privés sous la forme de chantiers-écoles, puis dans un second temps à la reconstruction de murets en pierre sèche lors de journées de formation ouvertes au public. Parallèlement à ces travaux de sauvegarde, la PIC propose et anime des circuits de découverte du patrimoine bâti et naturel, des soirées théâtrales à la ferme, ainsi que des ateliers d'écriture de contes et légendes autour des thèmes de l'eau des Causses, des bois et de l'arbre du pays Midi-Quercy. Eh bien, le fruit de ces ateliers, le voilà, c'est ce livre. Ainsi, Thierry Desjans présente cet ouvrage qui recueille des contes inventés dans ses ateliers d'écriture qui ont été narrés d'ailleurs parfois déjà devant un public lors de veillées et de soirées théâtrales, et cela pour la plus grande joie de tous. Ont participé à ce florilège Maurice Beau, Raphaël Beau, Thierry Desjans, Jacques Douel, Nicolas Guiraudet, Annette Morel, Michel Vaissier et d'autres. Et tous ces ateliers ont été faits sous la direction d'Evelyne Moraël Foll.
Ooh, Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Michel Vaissier.
En des temps anciens, mais à une époque pas si lointaine, les bois étaient encore une source de richesse pour les hommes vivant sur les cosses du Quercy. Sans compter, des générations de bûcherons taillaient allègrement dans la forêt, fournissant en abondance de multiples essences aux charpentiers, menuisiers, charbonniers, cheminées et âtres en tout genre. Un brave homme du nom de Peyroutou vivait là sur ces terres calcaires et exerçait ce dur métier de bûcheron que lui avait appris son père qui le tenait lui-même de son père. Tant bien que mal, Peyroutou nourrissait honnêtement sa famille, maniant vaillamment sa hache, sans plaindre ni sa peine ni son labeur. La veille de Noël, Peyroutou s'apprêtait à abattre le petit chêne pour compléter son dernier bûcher de l'année, quand une voix aigrelette sortie de l'arbre l'interpella. « Retiens ton bras et baisse ta cognée, Peyroutou. Je vaux mieux debout qu'un ster et 10 fagots. » Étonné qu'un chêne connaisse son nom, Peyroutou lui répondit cependant. « Ton destin est d'achever mon bûcher avant demain, comme le mien est de nourrir ma famille et de disparaître un jour. Soyons sages et acceptons notre sort. »« Attends encore un peu, Peyroutou. Quand toi et les tiens auraient réduit à néant tous mes semblables, ces terres fragiles auront perdu une part essentielle de leur âme. » Rapidement, vos enfants ne verront ici qu'une pauvre rocaille aride et n'y connaîtront que misère. Aujourd'hui, épargne-moi et reviens demain. Alors, serre-toi de tes yeux, cherche et découvre le trésor dont à l'avenir je serai porteur. Tu comprendras que je vaux debout mieux qu'un ster et 10 fagots. Considérant qu'il ne prenait pas de risque en accordant un tel sursis, Peyroutou s'en retourna chez lui. Dès le lendemain, il revint devant le petit chêne réclamer son dû. Il avait beau lever les yeux vers les hautes branches jusqu'à la cime, aucun trésor ne pendait à la ramure.
« Tu t'es moqué de moi, le chêne. Je vais te montrer séant de quel bois je me chauffe. »
La hache levée, il s'apprêtait à abattre l'arbre quand la petite voix l'interpella à nouveau.
« Retiens ton bras et baisse ta cognée. Tu continues à me regarder comme un bûcheron. Sois humble, baisse la tête et observe les choses comme un homme de la terre. Tu comprendras que je vaux mieux debout qu'un ster et 10 fagots. »
Peyroutou fait ainsi et il vit alors que tout autour du chêne, un curieux cercle de terre sans herbe ni végétation était bien marqué. Cela l'intrigua. Soudain, une petite mouche s'éleva du sol dénudée et tournoya autour de son point d'envol. Peyroutou mit genou à terre et de ses mains fouilla le sol à cet endroit-là. Ses doigts terreux ne tardèrent pas à mettre à jour une pierre curieuse, informe, sombre, légère et granuleuse, comme une motte noirâtre ou une gangue brunâtre. Il la dégagea, la frotta et fut surpris du parfum puissant qui émanait d'elle. C'était une fragrance envoûtante et sans pareille, jamais exhalée à ce jour. Il retourna chez lui, montra sa trouvaille à sa femme qui, ce jour de Noël, recevait à sa table famille et amis. Inspirée par le parfum de l'étrange découverte, elle coupa l'étonnante chose odorante en de fines lamelles dans sa poêlée de battu et en mélangea quelques miettes dans la farce de la poule qu'elle s'apprêtait à dorer. Et là, Noël, Noël en bouche, un miracle gustatif s'accomplit. Tous les convives furent envoûtés par la saveur du fruit nouveau. La truffe, trésor de nos papilles, était révélée à l'homme. Peyroutou raconta à tous le détail de son aventure avec le petit chêne. Et c'est depuis lors que les bûcherons d'Écosse regardèrent autrement les chênes dont ils prirent l'habitude de détourner leurs cognées. en observant différemment la nature, la terre et même les mouches, en mettant genoux à terre, en fouillant le sol de leurs mains, ils apprirent la patience, l'humilité et comprirent pour le bien commun qu'un arbre debout vaut parfois mieux qu'un stère et 10 fagots. Et cric et crac, mon conte s'acabat.
Pays Midi Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Lou Gastinel. Parmi les nombreux habitants de Saint-Antonin vivait Lou Gastinel. Il était né de père inconnu. Sa mère, Mel Tirondel, l'avait prénommé Gaston. Il grandissait dans une humble maisonnette choyée par sa famille. « Tu es le petit gars de Dieu !» lui racontait sa mère. Est-ce pour cela qu'il ne savait pas dire son nom correctement ? Gaston Tirondel était transformé en Gastinel. Devenu orphelin à l'âge de 7 ans, il perdit son bonheur. Depuis, il errait de maison en maison. Il survivait en mangeant des restes jetés et faisait de même pour se vêtir. Il ne lui restait que son surnom. Il aurait bien aimé être sédentaire, mais Gastinel était laid, malodorant et souffrait de solitude. Un beau jour, il décida d'aller vers Caussade chercher l'âme sœur. En chemin, il rencontra un corbeau qui se moqua de lui.
« Que tu es laid !»«
Oh, que tu es méchant !» Et le corbeau s'envola. Quelques kilomètres plus loin, ce fut un furet qui lui parla.
« Que tu sens mauvais !»«
Oui, je le sais !» Et le furet disparut lui aussi. À l'endroit le plus escarpé de son périple, il croisa étrangement un vieux sanglier.
« Ah 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 ah, tu es tout seul !»«
Oui, je le sais, comme toi, singulier sanglier. » Cela se voyait-il tellement ? Et pourquoi les animaux parlaient-ils ici ? Gastinel était triste. 200 mètres plus loin, après ces 3 rencontres, il vit une vieille femme assise sur une grosse pierre. Elle l'interpella d'une voix chevrotante.
« Aide-moi, petit ! Je n'arrive plus à me mettre debout. Je dois rentrer chez moi. Aide-moi, je t'en supplie. »
Il était seul, malodorant et laid, mais il avait bon cœur. Il l'aida comme elle le lui avait demandé. Alors, elle devint de plus en plus belle, de plus en plus jeune. « As-tu vu 3 animaux ?» lui dit-elle. Il hocha la tête. « Cite-les. »
« Le corbeau. »«
Un corbeau ? Mais que c'est laid !
Ah bon ? Je n'ai vu que son beau plumage brillant qui le rendait majestueux, madame. »
Aussitôt, Lou Gastinel se métamorphosa en un magnifique jeune homme tout de noir vêtu. Continue.
Le furet.
Un furet qui sent mauvais, c'est sûr.
Je ne sais pas, madame, mais ses yeux étaient sombres et luisants. Cela lui donnait un air intelligent.
Sa mauvaise odeur disparut et ses yeux devinrent comme ceux du furet. Continue encore.
Le sanglier.
Un sanglier solitaire, bien sûr.
C'est possible, madame. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la puissance qui se dégageait de sa masse.
La force, enfin, la puissance envahir son corps. Et il se trouvait ainsi devant elle. À l'emplacement de la grosse pierre surgit une magnifique demeure. Ils y entrèrent. « Où sommes-nous ? » demanda-t-il. « Je ne le sais pas encore. Donne-moi ton nom et je te le dirai. »« Gastinel, madame. »«
Alors, nous sommes à Gastinel. Cela n'existait pas encore et tu y resteras la vie durant. »
À cette époque, c'est ainsi que leur nom était donné au lieu-dit, comme par enchantement par des enchanteresses.
Quercy, ma terre dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.
Bien loin de chez vous, pas bien loin de chez vous, il y a bien longtemps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, vivait un petit chêne pédonculé en bien mauvais état. C'était au lieu-dit le Pêche, près d'un mur de pierre, à quelques kilomètres de Caylus. Imaginez, voyez. Gringalé, malingre, fiévreux, agité, tourmenté, caractériel, en un mot, c'était notre petit Quercy. Ah, quelle pitié que ce petit arbre! Il renversait les provisions de l'écureuil, tirait la queue du mulot, pinçait les ailes de la sauterelle, faisait fuir les oiseaux auxquels il n'offrait aucun abri car il n'était pas plus haut que les longues herbes du pré. Tel il était, tel il restait.
« Cesse de te trémousser, sois raisonnable !»«
Accepte de pousser, sois un arbre !»
Tiens-toi droit comme ton grand-père, le chêne de Parisot.
Cesse de t'agiter et de faire des bêtises, petit chêne, bon à rien.
Tout le monde le lui disait, mais sans résultat. En fait, petit Quercy aurait bien voulu devenir un grand chêne majestueux de 400 ans. Mais comment? Ça, personne ne lui disait. Récriminations ne sont point sagesse ni conseil. Un jour pourtant, petit Quercy remarqua comme était longue et souple la couleuvre à ses côtés.
« Couleuvre, ma jolie, comment fais-tu pour t'allonger? Tu vois comme je suis nul et petit? Fais comme moi, étire-toi. Je ne sais pas. Comme ça, regarde, vers le bas, puis vers le haut. D'abord, tu presses la terre sous toi, puis tu hausses ta cime vers le ciel. Oui, oui, bravo, tout droit, tout beau. » Petit Quercy pleura de joie. Il découvrait ses racines poussant entre les pierres et sa puissance intérieure. Au même moment, il fut grand et fécond. Ce fut le miracle du tronc élevé, des branches multipliées, des glands par milliers.
Bravo pour tes contradictions dépassées,
philosopha le vieil hibou.
Eh bien, soit. Petit Quercy était grand, mais de plus en plus agité et combatif, avide et avare, coléreux et méprisant, toujours plus de feuilles, de glands et d'ombres tutélaires.
Admirez-moi, moi, moi, le petit Quercy premier.
Rossignol passa par là. Petit Quercy l'admira.
Rien qu'à regarder tes feuilles trembler d'avidité, je n'ai pas envie, moi, de chanter pour toi, dit Rossignol. Tu me donnes le tournis.
Oh, s'il te plaît, viens loger au cœur de mes branches. Je te loge en échange de tes trilles amoureuses.
Soit, accepte alors, à la saison des chutes et des récoltes, le bel automne. Laisse choir tes glands et je viendrai te tenir compagnie. Topela, marché conclu.
Et le petit Quercy connut l'ivresse du don, mais aussi l'aigreur de n'être pas assez remercié. On me doit, on me devrait.
Tous des ingrats, je suis dépossédé. Je vais reprendre mes glands. Comme je suis malheureux, on ne sait même pas m'aimer comme je le mérite.
Qui viendra aider petit Quercy? Ayons confiance dans la magie des contes.
Pays Midi Quercy, Mater dans tous ses états, une émission de connaissance de notre territoire.